Bon matin tout le monde. Alors encore une fois, bienvenue à l'Église Renaissance. Et ce matin, nous allons tourner dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Un court verset, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, verset 22. Où nous lisons, « Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Le titre du message aujourd'hui, 2021, un monde troublé. Et ce qu'on vient de lire ce matin, c'est un peu un regard que l'on peut se faire d'une nation qui s'éloigne de Dieu et qui refuse de voir le véritable portrait de l'avenir sur cette terre. Et l'horizon ne peut que s'assombrir pour un peuple qui n'écoute pas Dieu. Détresse, obscurité et de sombre angoisse. Évidemment, cette crise pandémique crée justement une certaine détresse, une obscurité et de l'angoisse. Confusion, le doute et sûrement des questionnements. Et comme j'ai déjà parlé, surtout parce que cette situation est unique et qu'elle évolue toujours à un rythme quand même accéléré et dans un climat d'incertitude. Confinement, déconfinement, reconfinement, débordement dans le système de santé, retard de la vaccination et beaucoup de questions concernant son efficacité. On parle des dernières semaines d'un nouveau variant. Bref, un climat qui est orageux et s'assombrissant de plus en plus. Nous ne connaissons pas vraiment le résultat final, mais les perspectives d'un retour à la normale restent faibles. Au niveau mondial, on parle de dépression, on parle de suicide, on parle d'infantilisation de la population qui est progressivement conditionnée à obéir aux consignes des gouvernements, perturbation ou arrêt des activités économiques entraînant le chômage et des pertes considérables de revenus, des individus qui sont conduits à dépendre des subsides de l'État, privation de nos libertés fondamentales, aboutissant à une forme de dictature sanitaire sans précédent et une disparition progressive de tout lien social et culturel par crainte de contagion. On parle également de censure et de sanctions monétaires, pénales ou judiciaires de tous les contrevenants. Et même si 99% des personnes guérissent de la COVID-19, il y a toujours cette peur croissante de ce virus. Et en toute honnêteté, encore une fois, on parle de détresse, d'obscurité et de sombres angoisses, telles que dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 22. Et juste en passant, le monde peut être un endroit difficile. Vivre sur cette terre peut être problématique. On parle de détresse, on parle d'obscurité, mais il n'y a rien de nouveau. Si on faisait la nomenclature de l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui est ressorti de l'histoire de l'humanité? Ce sont des guerres, des inquisitions religieuses, de pauvreté, on parle de famine, de maladies, de déportations de gens contre leur gré, et j'en passe. Et présentement, quoi que l'on en pense, nous étions, avant la pandémie, encore dans un temps de conflit à l'échelle mondiale. Sur le site France Culture, il était écrit tout récemment, « Depuis 15 ans, le monde semble emporté dans une folle course à la guerre. Le Moyen-Orient est pris dans une spirale suicidaire sans fin, le terrorisme international nous défie, et de grands empires entrent en confrontation. Le virus de la guerre est en nous, rendu plus agressif par les peurs, les humiliations et les colères. La crispation des nations occidentales sur leurs privilèges et sur une vision du monde dépassée ne peut qu'aggraver les maux. » Et je rajoute, certains pays en Afrique, donc nous parlons de famine. En Haïti, on parle de, dans le pays d'Haïti, dans les Caraïbes, on parle d'un climat social très tendu et dangereux. Moyen-Orient, depuis bien des années, des conflits religieux. Europe de l'Est, on parle de pauvreté. Et plus proche de nous, les États-Unis, d'une guerre civile. J'en reviens un peu au prophète, au roi Salomon, dans son livre L'Ecclésiaste, quand il disait au chapitre 2, « Alors je me suis mis à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire, autant courir après le vent. » Autrement dit, parce que tous les jours d'un homme, sa tâche est douloureuse et pénible, même la nuit, son esprit ne se repose pas. Et selon l'agence France Presse, on disait, avec les grandes puissances focalisées sur la COVID-19, les conflits dans le monde vont-ils s'amenuiser, ce qui veut dire pas augmenter, mais diminuer, vont-ils diminuer ou s'intensifier? Alors, notre réflexion aujourd'hui découle un peu de ce que j'ai entendu de la part des réactions venant de plusieurs chrétiens qui s'interrogent sur la situation du coronavirus. Et je redis, le déchaînement médiatique, les médias, autour de l'apparition de ce nouveau virus, nous a littéralement pris toute notre attention et amené beaucoup d'interrogations, il va sans dire. Encore une fois, une certaine inquiétude. Comment intégrer cette nouvelle réalité? Et quels points de repère biblique permettront de naviguer dans cette crise? Je reviendrai un peu dans l'histoire, alors que, encore une fois, cette situation n'est pas nouvelle. Un fléau qui a parcouru l'Europe 2 à 3 fois par centenaire, à partir du 14e siècle, a été la peste. D'où une de ces pestes, la peste noire, cette fameuse peste qui a décimé presque la moitié de la population d'Europe à l'époque et avait déclenché des réactions, il va sans dire. En l'absence d'une certaine connaissance médicale, on avait dit que le fléau avait forcément une origine spirituelle. L'historien John Hatcher décrit les orientations du clergé d'Angleterre. Où il écrit, « Alors que la peste se rapprochait de plus en plus de l'Angleterre durant l'été 1348, l'Église a naturellement pris l'initiative de donner des conseils sur la manière d'apaiser la colère de Dieu. De nombreux évêques écrivirent des lettres à lire en anglais, dans des mots que tous pouvaient comprendre, dans toutes les églises paroissiales de leur diocèse, pour demander la confession et ordonner des processions et des messes pénitentielles. Aussi, il y avait eu des lettres qui avaient été écrites par l'archevêque de York et l'évêque de Lincoln dans les derniers jours de juillet et à la mi-août. Le roi Édouard III a demandé à l'archevêque de Canterbury d'organiser des prières, des messes, des sermons et des processions dans toute la province de Canterbury pour protéger le royaume d'Angleterre alors que la peste, justement, s'en allait vers l'Angleterre. Et dans les discussions qu'il y avait dans ce temps-là, concernant la signification de la peste et des manifestations ultérieures, on disait que Dieu infligeait la peste en réponse au péché de l'humanité. Et des parallèles avec les fléaux bibliques étaient fréquemment établis. Car n'oublions pas que dans l'Ancien Testament, dans ce temps-là, et encore aujourd'hui, la pensée était que Dieu utilisait la peste comme jugement. D'autres penseurs, plus, je dirais, plus perspicaces, ont cherché à voir ce fléau non pas simplement comme un acte de vengeance, ou comme un juste châtiment infligé par Dieu, mais comme un moyen miséricordieux de détourner les gens de leur voie pécheresse, afin qu'ils puissent finalement être sauvés. Malheureusement, les réactions des gens n'étaient pas confinées à quelque chose seulement de moral. Bien souvent, il fallait trouver des coupables. Alors, ils avaient trouvé les Juifs pour endosser une certaine responsabilité fantaisiste et dramatique, selon un auteur, Jean-Claude Guilbeault, dans son livre « La vie ». Un autre auteur avait dit aussi « En ce temps-là, furent généralement par tout le monde pris et brûlés les Juifs, leur avoir confisqué, excepté en Avignon, en terre d'Église. À Strasbourg, en février 1349, 2000 Juifs périssent sous les coups de la population qui les accuse d'avoir emprisonné les sources et les fontaines. » Alors, voyez-vous, dans ce temps-là, on vit quelque chose de très, très grave. On vit la peste. Il y en a qui pensent, il y en a qui disent que c'est un jugement de Dieu. Il y en a d'autres qui disent que c'est justement un jugement de Dieu, mais pour amener les gens à la repentance, et d'autres personnes pensent que c'est à cause des Juifs. Un autre historien, Michel Vauvel, dans un texte destiné à l'Encyclopédia Universalis en 2004, donne des précisions. En 1349, après la peste noire, les Juifs d'Allemagne furent enfermés dans un quartier dont les portes étaient closes chaque soir. Est-ce que ça vous rappelle un certain confinement?
Oui.
Il s'agissait bien de ghetto, même si le terme ne fut officialisé qu'en 1516 par une encyclique du pape Paul IV. Dans les faits, Jean Ier de Pologne avait institué dès 1494 le premier ghetto de son royaume. Or, les Juifs qui avaient émigré vers la Pologne et la Lituanie à partir du 8e siècle, bien avant la peste noire, y avaient été invités par les souverains de ces pays qui comptaient sur eux pour relancer l'économie. Mais la rumeur accusant les Juifs d'avoir empoisonné sources et fontaines fut relayée par une autre accusation, celle d'avoir plus facilement échappé à la peste que les chrétiens. Elle s'exprima notamment dans plusieurs villes italiennes. Euh, Et on disait que les Juifs étaient encore l'auteur de toute cette situation. Pourquoi que je dis ça, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, ça a déjà été vécu bien avant, il y a plusieurs centaines d'années auparavant. On parle de confinement, on parle d'accusations, on parle d'accusations contre les Juifs. Toutes sortes de choses qu'à l'époque, on avait, parce que c'était une situation tellement grave, la peste noire. Et encore aujourd'hui, il y a des similitudes qu'on peut voir. Exemple, comme des camps d'isolement à plusieurs endroits au Canada destinés aux récalcitrants de la COVID-19, ainsi qu'aux USA. Puis il y a des personnes qui disent « Oh non, c'est impossible, il n'y aura pas de camp, c'est pas vrai. » Écoutez, il n'y a rien de nouveau. Ça s'est fait il y a très longtemps. Comme j'ai lu tout à l'heure, dans l'Allemagne, il y avait des quartiers, il y avait des endroits où on mettait les Juifs. Et je lisais justement cette semaine des prisons en Allemagne qui sont déjà faites pour les gens qui sont récalcitrants au confinement. Alors présentement, il y a des prisons qui sont faites en Allemagne. Et comme je dis souvent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que l'on vit a déjà été vécu auparavant. Comme l'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau. Mais faisons attention, la peur est parfois la conseillère la plus grave et la plus aveugle. C'est certain que ce que l'on vit, le virus que l'on vit présentement, suscite un intérêt partout dans le monde et dans les médias. Surtout avec la rapidité des médias, de la nouvelle technologie. Mais nous autres, en tant que croyants, la consolation et la sagesse de l'Écriture doivent nous aider à garder la tête haute et à comprendre ces événements du temps de la fin. Contrairement peut-être à des situations durant la peste noire qui étaient vraiment, c'était quelque chose de vraiment épouvantable, la peste noire, et je peux comprendre comment la peur avait pris d'assaut les gens de l'Europe et de l'Angleterre, parce que la peste avait commencé en Europe et s'en allait en Angleterre. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose, les gens sont pris, les gens ont une certaine peur, une certaine angoisse, et c'est parce que là, on a une espérance dans un vaccin, sinon probablement que la situation serait plus noire que ça. Mais nous, en tant que chrétiens, comment qu'on perçoit cette situation-là? Il faudrait la percevoir par les Écritures. Et l'Église, en général, doit avoir une perspective claire, différente d'une perspective des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et même, quand j'ai parlé de la peste tout à l'heure en Europe, même les gens qui avaient une certaine connaissance des Écritures, des choses de Dieu, n'ont pas amené vraiment des réponses à ce qu'ils vivaient. Et justement, il faut ne pas faire les mêmes erreurs que ces gens-là ont faites au 14e siècle. Et nos attitudes, nos comportements doivent être différents. Faire attention, dans ce temps-là, il y avait tenté d'expliquer Dieu. Pourquoi Dieu faisait des choses, pourquoi Dieu c'était de Dieu s'il vivait la peste. C'est difficile d'expliquer Dieu. Pourquoi Dieu permet-il ces choses-là? Pourquoi que... Souvent, c'est des questions qu'on entend, et surtout quand on voit la souffrance. Très difficile de vouloir attaquer Dieu, comme si nous connaissions les rouages de son raisonnement. Jésus évoque ce problème dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Regardez ce qui est écrit. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens. Alors, il y a des gens qui vont voir Jésus. Et ces gens-là, ils ont raconté à Jésus qu'est-ce que Pilate avait fait avec ces gens-là de la Galilée. Qui avait mêlé le sang, qu'ils avaient tué, puis qui avait mêlé le sang avec des sacrifices. Et Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte. Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Puis il va encore plus loin. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Il continue, il dit non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alors, ce que Jésus voulait dire, c'est que la violence humaine, les catastrophes naturelles, les gens qui souffrent, les événements qu'on peut vivre, il ne faut pas en faire une culpabilité personnelle. Jésus veut dire, écoutez, c'est pas parce que ça arrive des choses comme ça que c'est de leur faute. Ces catastrophes nous renvoient à notre mortalité. Nous sommes des mortels. Notre fragilité. Nous sommes fragiles. Et Jésus veut dire que certains événements qu'on peut vivre vont nous amener à rechercher une réconciliation avec Dieu. Parce que la mort est une réalité. Et depuis Genèse chapitre 3, notre monde est brisé depuis Adam et Ève. Et quand la pandémie a commencé de janvier, on parle de mars, puis on parlait au mois de... Il y avait des statistiques qui disaient que j'avais lu au mois de mars, de janvier à mars. On parle de 35 000 personnes dans le monde qui supposément seraient mortes de la COVID. Et je dis bien supposément. Mais saviez-vous que de janvier à mars, pendant ce temps-là, il y avait des mères qui avaient donné naissance à des enfants et il y avait dont 75 000 mères avaient décédé dans le monde. Il y avait 119 000 personnes qui étaient décédées de la grippe. 240 000 de la malaria. 330 000 personnes accident de la route. D'alcoolisme. 3 millions de personnes de maladies. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau que nous vivons là. La mortalité fait partie de la vie. Puis dans le prophète Amos, dans son livre, Amos fait une déclaration. Amos, chapitre 3, verset 6, le prophète Amos, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Oui, malheureusement, certaines personnes veulent attribuer à Dieu la responsabilité de ce qui ne va pas. Oui, il y a des gens qui vont souffrir pendant tout ce temps de cette pandémie-là. Et comme le dit le prophète Amos, Dieu le permet. Dieu n'en est pas l'auteur. Il est dans l'auteur d'une certaine façon parce qu'il le permet. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vit vient de Dieu. Remarquez, quand Job a sa maladie, puis remarquez quand Dieu se présente à Job après ses terribles souffrances. Et le Seigneur ne lui parle, ne répond pas à ses questions. Pourtant, Job lui demande des choses, pourquoi ça lui arrive, pourquoi il a eu une maladie, pourquoi il a perdu ses enfants, pourquoi que ça lui est arrivé, et toutes ces choses-là. Et Dieu ne répond pas directement, mais lui pose des questions pour amener à Job à penser d'autres choses. Autrement dit, comprendre Dieu, comprendre la façon qu'il fonctionne, c'est très difficile. La nature de Dieu, les décrets de Dieu, comment que Dieu peut amener l'humanité là où qu'il veut qu'elle aille, c'est très difficile à comprendre pour nous les êtres humains. Et la réponse que Dieu donne à Job, c'est vraiment pas ce que Job pensait entendre. Mais il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alors, je vous rappelle qu'il y a des événements qui peuvent être un acte de Dieu et d'autres non. Il y a beaucoup de personnes qui attribuent à Dieu bien des choses. Réchauffement climatique, détérioration de la terre, maladie, souffrance. Alors que bien souvent, c'est l'homme qui est responsable. Alors, mon point ce matin, c'est encore ne pas faire de Dieu l'auteur de ce qu'on vit, mais de lui faire confiance, d'avoir une confiance en Dieu. Jésus a dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? » Il dit, « Même vos cheveux sont tous comptés, n'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Pourquoi? Parce qu'il disait que il disait qu'il n'y a pas d'oiseaux qui tombent sans que Dieu l'ait autorisé. C'est grave, là. Dieu est en contrôle de tout. Dieu règne à la perfection sur nos vies. Pas toujours comme nous le voudrions, mais il règne. L'apôtre Paul va dire, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Alors, il faut faire confiance à Dieu dans un temps comme on vit là. Et de regarder dans les Écritures comment Dieu peut nous révéler des choses, comment Dieu peut nous parler. Et d'accepter la situation, parce que Dieu est en contrôle et la situation fait partie du plan de Dieu. Et de prendre cette situation-là justement pour être un instrument dans les mains de Dieu. Comment que dans les épidémies, dans les pestes, dans les années, dans toute l'histoire de l'humanité, comment que les chrétiens ont été confronté au danger de ces épidémies. Comment? Selon certains historiens, la plupart des gens qui soignaient les malades de la grippe espagnole étaient des chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas les soigner parce qu'à cause de la contagion. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est contagieux comparé à la grippe espagnole, alors qu'on pense qu'il y a eu probablement 50 millions de personnes qui sont décédées en 1918. Et ces gens-là, ils leur demandaient, ces gens-là disaient, après tout, nous savons où nous allons. Et il disait en plus, pour un disciple de Christ, le pire ne sera jamais le pire. L'apôtre Jean va dire, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là. Oui, il permet une situation, mais il est quand même là. Il n'y a rien qui se fait sans l'autorisation de l'Éternel. Ésaïe chapitre 14, verset 24, « L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. » Ésaïe chapitre 46, remarquez qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il est dit. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et quoi qu'il arrive, ça fait partie de la volonté de Dieu. Et là, qu'est-ce que Dieu parle? Il parle de tout. Là. Dans ces versets-là, Dieu parle de tout. C'est sa volonté. Et Dieu encore contrôle tout ce qui se passe. Alors, on doit poser la question. Est-ce Dieu qui l'a envoyé? Il y a des chrétiens qui se posent la question, est-ce que cette situation vient de Dieu ou vient de l'ennemi? Et si on regarde les effets de cette situation-là, de ce virus-là, de cette pandémie-là, la réponse devrait être claire. C'est quoi les effets? Ce sont des effets qui sont néfastes. Et si on regarde les Écritures, pour les gens qui suivent les prophéties du temps de la fin, on sait que c'est un aboutissement, un contrôle gouvernemental complet de la société préparant le système dictatorial de l'Antéchrist. Alors, pensez-vous que le Seigneur Dieu, qui a fait retomber sur Jésus-Christ, sur la croix, les péchés, les maladies, les malédictions qui pesaient sur l'humanité, soit à l'origine de ça? Absolument pas. Et qu'est-ce que ferait Jésus aujourd'hui? Ça ne peut pas venir de Dieu, alors, parce que qu'est-ce que Jésus ferait aujourd'hui? Si Jésus était ici physiquement présent sur cette terre, il guérirait les malades. Encore, il continuerait à guérir les malades, même les malades de la COVID-19, comme il l'a fait il y a 2000 ans. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. C'est toute une mascarade, c'est toute une pièce de théâtre pour nous amener à quelque chose au temps de la tribulation. À travers de cette dictature sanitaire que nous devons subir, malheureusement, Satan est en train de préparer le monde à la marque de la bête, sans laquelle nul ne pourra ni acheter ni vendre. Alors pour le moment, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui se déguise dans les gouvernements, pour faire accepter aux gens certaines choses, des privations de liberté, des mesures restrictives. Et c'est pas nouveau. Ce qui se passe, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'il y a au temps de Jésus? Qu'est-ce qu'Hérode? Qu'est-ce que Pilate a fait? Comment ces gens-là ont réagi avec le Messie? La mortalité des enfants quand le Messie est né. Comment ces gens-là ont réagi? Comment les offices du gouvernement, comment que le gouvernement à l'époque a réagi? Il n'y a rien de nouveau, encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et souvent, on regarde les choses, ce qui nous arrive présentement, toutes les restrictions, la privation de nos droits et notre liberté, et d'une certaine façon, ce n'est pas ce que l'on veut. Mais revenez dans le temps de Jésus. Quand ils ont annoncé qu'il y avait la venue d'un Messie, et comment ils ont fait tuer les enfants de 2 ans et moins? Comment les gens ont pu réagir à l'époque? Et souvent, on lit ça et on dit « Ah, c'est épouvantable! » Mais c'était une décision du gouvernement. Vrai ou faux? Alors là, on peut la comprendre aujourd'hui. Voyez-vous, c'est moins... Aujourd'hui, on ne vit pas la même chose. Mais ce que l'on vit, ça s'est passé au temps de Jésus. Mais en tant qu'Église fidèle au Seigneur Jésus, on doit comprendre cette situation avec foi, selon les Écritures, avec quelque chose de meilleur qui s'en vient. Et une chose est certaine, c'est que avant que des jours mauvais arrivent, avant que la situation va se dégénérer, va tellement l'Église sera enlevée, l'enlèvement de l'Église. Puis l'enlèvement de l'Église marquera le début de la tribulation. Tant et aussi longtemps que l'Église est sur la terre, tant et aussi longtemps que le peuple de Dieu est sur la terre, la colère de Dieu n'est pas commencée. On vit dans un temps de grâce. On vit encore dans un temps de grâce. On vit dans un temps qu'on peut prier, qu'on peut louer Dieu, qu'on peut évangéliser, qu'on peut faire notre ministère, même s'il y a des contraintes. Continuez à prier et à agir. Et profiter de ce temps-là pour être plus actif dans le monde spirituel. Parce que la parole de Dieu va s'accomplir. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, et quand je disais au départ de passer par les Écritures, qu'est-ce que les Écritures disent? Les gens pensent qu'on s'en va vers un monde, le monde de plus en plus, un meilleur monde, toujours en s'améliorant et on s'en va vers quelque chose de meilleur. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit non. La parole de Dieu nous conduit dans un temps qu'on parle d'Apocalypse. Les gens pensent souvent que, souvent justement, qu'il y a des choses meilleures qui s'en viennent. Mais l'Apocalypse, mais Dieu dit non. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre notre situation par les Écritures. Et non pas d'aller, comme j'ai dit tout à l'heure, comme les gens dans le temps de la peste, alors qui allaient avec des déclarations, avec une pensée qui était erronée. On doit se voir les choses à travers les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'Éphésiens chapitre 6 nous dit? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Des armes, ça nous prend des armes. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors Paul ici, dans Éphésiens chapitre 6, nous parle que, un instant, là, vous avez besoin des armes. Il y a des temps qui vont arriver qui ne seront pas faciles. Il y a des temps qui vont arriver que c'est le diable qui va, par sa ruse, qui va nous attaquer. Paul n'est pas en train de dire que il y a des temps merveilleux qui s'en viennent. Qui s'en viennent. Paul nous parle d'une bataille. Alors, nous avons besoin de se fortifier par la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être ancrés dans la parole de Dieu et de comprendre les événements par la parole de Dieu. Et non pas par les médias, et non pas parce que ce que les gens pensent, ce que les autorités peuvent penser, tout en étant quand même en étant soumis à la volonté du gouvernement. Mais ce que je veux dire, c'est que voir ces choses qui nous arrivent par les Écritures. Qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce que la parole nous montre? Qu'est-ce que la parole... Est-ce qu'il y a des choses qu'on vit présentement qui sont arrivées dans les temps anciens? Alors, il faut voir ces choses-là, les événements, par la parole de Dieu. Faire confiance à Dieu en tout moment, en toute chose. Que Dieu permet ces choses-là. Permet un temps que j'appelle un temps d'incertitude. Un temps où qu'il y a de l'angoisse. Un temps où que les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. Mais de s'en remettre au Seigneur dans ce temps-là. De voir quand même une lumière au bout du tunnel. De dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux... ma vie spirituelle. Et c'est dans ces temps-là, souvent, qu'on se redécouvre. On voit que les choses qu'on mettait beaucoup d'accent, peut-être c'est dérisoire, et c'est là qu'on voit que dans des temps difficiles, c'est là que les valeurs, nos valeurs ressortent. Alors, très important de comprendre cela par la parole de Dieu. Et d'être dans la volonté de Dieu, comme j'ai dit dans les anciennes, dans les prédications la semaine passée et de l'autre semaine. De prier.
C'est important.
Amen.
Amen. Amen.